Sociologie mystique, Saint-Joseph, Père Philippe, 17 octobre 1984.
Nous allons reprendre rapidement. Je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais je crois qu'on peut toujours creuser davantage cet évangile de Saint-Jean, étant donné qu'il est pour nous l'ultime moment de la révélation. Je crois qu'on peut le considérer, c'est une des grandes conclusions de certains bons exégètes sur Saint Jean, Père Feuillet, le Père Braun, n'hésitez pas de considérer que l'évangile de Saint Jean était justement ce qu'il y avait d'ultime, ce qu'il y avait de dernier au point de vue de la révélation. Je crois que nous pouvons utiliser ces conclusions. Ça a été remis en cause récemment par un livre qui a fait beaucoup de bruit. Mais je crois que c'est un peu une fantaisie. Très montant à essayer de montrer que l'évangile de Jean, pas du tout, c'était le premier. Il y a toujours un peu un esprit de contradiction. Mais ça a été très, très discuté. Au fond, peu importe, je dirais, au point de vue de la date. Ce qui me semble absolument sûr, c'est que l'évangile de Saint Jean, c'est celui qui va le plus loin dans la révélation du mystère de la très sainte Trinité. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est ultime, puisque la révélation remonte à la source première pour le croyant, pour le chrétien, c'est le Père, d'où procède le Fils. Et le Père et le Fils d'où procède l'Esprit Saint. C'est donc le mystère de la très sainte Trinité. La compréhension ultime que nous avons du Christ se fait dans la lumière de la très sainte Trinité. Jésus est l'envoyé du Père. Or, c'est bien la perspective de Saint Jean, beaucoup plus que des synoptiques. Et donc là encore, nous signalons ce qu'il y a d'ultime, ce qu'il y a de dernier. La dernière manière de regarder Jésus, c'est de le regarder en tant qu'il est l'envoyé du Père. La dernière manière de regarder Marie, c'est de voir que Marie nous est donnée. Et c'est bien encore l'évangile de Jean. À la croix, Marie nous est donnée. L'ultime manière de regarder l'Église, c'est de la regarder relativement au Père. C'est bien le chapitre 15 en Saint Jean. Je crois que le chapitre 15 en Saint Jean nous met en présence de l'ultime regard, au point de vue de la foi, du mystère de l'Église. Pourquoi l'Église existe-t-elle ? Pour glorifier le Père. Et donc c'est bien l'ultime référence, c'est glorifier le Père. Toute la fécondité du mystère de l'Église, c'est pour glorifier le Père, que l'Église, comme la vigne qui doit porter des fruits. Je crois que c'est encore dans Saint Jean qu'on voit le mieux, dans l'évangile de Saint Jean, qu'on voit le mieux les luttes. L'évangile de Jean nous montre le mystère de la croix comme l'ultime lutte avec la haine qui existe entre le démon et Jésus, et que cette haine se poursuit jusque dans l'Église. De sorte que je peux dire, même indépendamment de la date, que l'évangile de Jean représente l'ultime révélation. C'est quand même très important, étant donné que dans la révélation, il y a un certain devenir, il y a un certain progrès. Tout n'est pas au même niveau. On peut le constater très nettement dans l'Ancien Testament et nous pouvons le constater aussi dans la Nouvelle Alliance. Il y a un certain progrès. L'Apocalypse, qu'on présente ordinairement comme l'ultime révélation, selon la Bible que nous avons, l'Apocalypse, de fait, c'est bien l'ultime révélation au niveau de l'Église militante. L'ultime révélation, c'est c'est-à-dire les explicitations les plus grandes au niveau de l'Église militante. Et l'Apocalypse nous montre bien l'Église dans la lumière de la très sainte Trinité. Mais je ne crois pas que l'Apocalypse apporte une lumière nouvelle sur la très sainte Trinité qui ne serait pas dans l'Évangile de Jean. Tandis que dans l'Évangile de Jean, il y a, sur le mystère de la très sainte Trinité, une lumière plus profonde que dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est avant tout au niveau du gouvernement. Tandis que saint Jean nous montre beaucoup plus le mystère de la très sainte Trinité en lui-même, le mystère de Jésus en lui-même, et aussi dans sa mission comme l'envoyé du Père. Mais l'Apocalypse est avant tout et en premier lieu le point de vue du gouvernement. Or, le point de vue du gouvernement vient en second lieu et n'est pas premier. Donc, au point de vue théologique, on peut considérer que je ne peux lire en profondeur l'Apocalypse que dans la lumière de l'Évangile de Jean. Alors, j'émets cette hypothèse, c'est une hypothèse que nous avons le droit d'avoir. J'aimais cette hypothèse que Jean n'avait pas du tout envie d'écrire un évangile. Je crois. Demandez-lui. On lui demandera quand on le verra. Il n'avait pas envie du tout d'écrire un évangile. La Providence a permis qu'il rencontre Luc. Or, Luc avait une intention très précise. C'est dit au début de l'évangile de saint Luc. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, selon ce que nous ont transmis ceux qui, témoins oculaires dès le commencement, sont devenus ensuite serviteurs de la parole. J'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis le début, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Théophile, il a reçu ce privilège de recevoir une lettre assez importante de saint Luc. Et ça continue. Donc il faut bien comprendre qu'il a ce privilège. Vous voyez que le but de saint Luc est très net. Il veut compléter ce qui a été écrit avant. Et il veut le compléter avec une précision de choses qui n'ont pas été dites avant. J'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis le début, d'en écrire pour toi l'exposé. C'est un souci d'historien, au sens très très fort, de découvrir quelque chose qui n'a pas encore été dit jusque-là. Un véritable historien cherche les sources, qui ne sont pas les sources au niveau philosophique, ce sont d'autres sources. L'historien cherche les témoins, ou les papyrus, qui sont encore des témoins, ou les manuscrits, qui sont encore des témoins. Ça a été écrit par la main de celui qui a écrit le livre. Mettez-vous un instant dans la position de saint Luc, parce qu'il faut considérer que Luc et Jean, ce sont des amis. Donc nous pouvons essayer de les comprendre de l'intérieur. Marie, peut-être, vivait encore. Jean vivait sûrement. Même si Marie était morte, Jean, même si Marie avait quitté cette terre, c'est plus juste de dire ça, même si Marie avait quitté cette terre, Jean était là. J'aurais été Luc, avec un sens historique et l'intelligence artistique de Luc, je crois que la première personne que je devais interroger, c'était bien Jean. Et peut-être par Jean, Marie si elle était encore sur la terre. De sorte que l'évangile de Luc est sûrement un évangile où Jean a coopéré énormément. Il y a sûrement entre Luc et Jean un lien très fort. J'aimerais presque dire, vous voyez cette coopération entre Moïse et Aaron. Nous le verrons. Et je crois qu'il y a une coopération analogue entre Jean et Luc. Jean est très heureux de trouver quelqu'un qui écrit bien, qui a un sens artistique et qui peut, par le fait même, transmettre ce que Jean, lui, porte dans son cœur. Parce que quand on aime trop, on n'a plus envie d'écrire. Moïse n'a pas envie d'aller voir le Pharaon parce qu'il bégait. Une excellente excuse. Jean, c'est pas parce qu'il bégait, c'est parce qu'il aime trop. On n'a pas envie d'écrire. Quand on a été témoin trop proche. Je me souviens, avec le père Finet, une fois, le père Finet me dit, j'ai été trop proche de Marthe pour écrire sur Marthe. Ça m'a fait penser à saint Jean. Parce que c'est vrai, quand on a été très proche de quelqu'un, c'est très difficile. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire. Parce que le lien affectif fait qu'on comprend profondément et que dès qu'on écrit, il y a des choses qu'on peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Parce que ça a l'air de mutiler, d'abîmer. Quelque chose qu'on veut garder pleinement. On peut en parler, mais on ne peut pas écrire. L'écriture, hein, limite. La parole limite beaucoup moins. Parce que la parole est vivante. Tandis que l'écriture, c'est figé. De sorte que Jean n'avait pas envie d'écrire sur Jésus. Mais il rencontre Luc, qui devient son instrument, son Aaron. Et à Luc, il communique, je crois, des quantités de choses. Je rêve toujours de pouvoir, à travers l'évangile de Luc, souligner en rouge tout ce que Luc a reçu de Jean. Ce serait très intéressant. Luc ne donne pas ses références. Hein. C'est à la mode du temps. Il ne donne pas ses références. Il n'est pas en note. Ceci vient de Jean. Ça aurait été tellement beau. Hein. Il nous aurait donné toutes ses sources. Non. Mais je crois qu'on peut, dans la mesure où on est un peu en connaturalité spirituelle avec saint Jean, découvrir à travers l'évangile de Luc tout ce que Jean a transmis. Il est bien évident tout le début de Saint-Luc. Ça, c'est bien évident. Mais continuez. Il y a des quantités de choses. Et c'est très éclairant. Et c'est très important de faire ça. Parce que ça fait comprendre pourquoi, dans Jean, il y a des événements qui ne sont pas dits. Parce que l'Esprit-Saint n'aime pas les répétitions. Ce que Jean a transmis à Luc, il ne va pas me reprendre. Si intéressant que ce soit, il ne va pas le reprendre. Il ne dit rien du tout sur la vie cachée, l'évangile de l'enfance. Rien du tout. Il avait sûrement des détails à donner en plus. Mais parce qu'il l'a communiqué à Luc, c'est suffisant. Je crois que Jean continuait de prêcher à l'église d'Éphèse. Ceux qui ont été à Éphèse savent bien que l'église de Jean là, Marie était sans doute venue à Éphèse. Je dis sans doute parce que c'est discuté au point de vue historique. Et Jean, à cause de la persécution, et rejeté à Patmos. Et à Patmos, il reçoit cette révélation étonnante de l'Apocalypse. Si quand on lit l'Apocalypse sérieusement, on est secoué, c'est vrai, ça nous secoue l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il faut la lire, pour s'empêcher de dormir. Hein. Alors il faut lire l'Apocalypse, pas trop le soir, mais le matin, n'est-ce pas ? Il faut lire l'Apocalypse, oui, parce qu'on risquerait d'en rêver toute la nuit. On ne dormirait plus, alors ça deviendrait dangereux. Alors on aurait de fausses révélations à ce moment-là, n'est-ce pas ? Mais le matin, lisons l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre qui a dû secouer Jean de façon très très profonde. Vivre ce que Jean nous dit dans l'Apocalypse. Après l'Apocalypse, Jean regarde l'Église d'un nouveau regard. N'est plus le même regard. Il voit que l'Église doit vivre ce que Marie a vécu. Je crois que l'Apocalypse pour Jean, c'est la révélation du vieillard Siméon à Marie qui s'étend à l'Église. C'est assez normal. La prophétie du vieillard Siméon regarde Jésus. Elle s'étend sur Marie, elle s'étend sur l'Église. Vous savez ce que dit Saint Jean Eudes ? Saint Jean Eudes dit que, puisque la dernière prophétie de l'Ancien Testament qui regarde Jésus, lie Marie à Jésus pour que nous comprenions qu'ils ont la même mission. Saint Jean Eudes dit, par le fait même, toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui regardent le Messie regardent Marie. Ça aussi, c'est un excellent principe d'exégèse au point de vue théologie mystique. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui regardent Jésus s'achèvent dans le cœur de Marie. Et je crois qu'on peut dire que toutes les prophéties qui regardent Jésus et qui regarde Marie, regarde l'Église. Étant donné que le Saint-Père, dans son encyclique Redemptor Hominis, nous dit que la mission de l'Église, c'est la même que celle de Jésus. Donc, toutes les prophéties qui regardent Jésus, regardent Marie et regardent l'Église. Et alors, l'Apocalypse nous donne justement cette première réalisation d'une prophétie qui regarde Marie, le cœur de Marie, et qui regarde le cœur de l'Église. Le glaive qui doit transpercer l'âme de Marie. Ce glaive transperce l'âme de l'Église. Et transperce l'Église. Et l'Apocalypse nous montre comment le glaive transperce l'âme de l'Église. Comment l'Église doit vivre des mêmes luttes que Jésus. Jean, ayant vécu l'Apocalypse, regarde l'Église d'une manière toute nouvelle. Et je crois que c'est à ce moment-là que Jean se décide d'écrire sa première lettre, sa première épître. Il écrit avec toute la tendresse de quelqu'un qui sait que ceux à qui il écrit, vont connaître de grandes tribulations. Et dans sa première épître, Jean montre la grande lutte de l'Église face aux antichrists. C'est vraiment dans le prolongement de l'Apocalypse. Vous voyez, c'est comme une application plus directe de l'Apocalypse. C'est pour ça que la première épître de Saint Jean, c'est, je crois, le premier traité de spiritualité. Après l'évangile de Jean, nous regarderons la première épître. Parce que c'est très important comme spiritualité à saisir. C'est très grand. Et après avoir écrit cette première épître, Jean se décide pour l'Église de l'Apocalypse, pour l'Église qui doit subir les grands combats et les derniers combats. Jean se décide à nous donner son évangile. Je crois que c'est comme ça que nous devons comprendre l'évangile de Jean. Il va nous livrer les derniers secrets qu'il n'avait pas pu livrer à Luc, parce qu'il n'avait pas encore assez souffert. Les secrets ultimes de Dieu sont donnés à l'Église vivant le mystère de la compassion. À l'Église vivant le mystère de la passion. C'est à ce moment-là où les derniers secrets sont révélés. Et Jean devait connaître cette première souffrance d'être rejeté à cause de la parole de Dieu, pour pouvoir nous livrer les secrets qu'il portait dans son cœur. Et dans l'évangile de Jean, nous trouvons ces derniers secrets. L'évangile de Jean, c'est l'évangile des secrets. Des secrets du cœur de Jésus, pour nous. C'est pour ça que c'est si grand. C'est pour ça que c'est si important pour nous. Et plus nous vivons le mystère de l'Apocalypse, plus nous vivons ces grandes luttes eschatologiques, plus nous avons besoin de l'évangile de Saint Jean. Plus l'évangile de Saint Jean, c'est notre évangile. L'évangile de Jean, jusqu'à nouvel ordre, hein, et jusqu'à nouvel ordre, c'est tant que l'Église ne décide pas. Les conclusions des exégètes, ce sont des opinions respectables, très intéressantes, mais ce sont des opinions. Ce que la foi reçoit, c'est la parole de Dieu gardée dans l'Église. Et la norme de notre foi, ce n'est pas les conclusions exégétiques, c'est le magistère actuel de l'Église. Le Saint-Père le dit explicitement, et il dit ça aux exégètes. C'est d'autant plus fort. C'est apparu dans la documentation catholique il y a 2 ans ou 3 ans. Il revient du reste souvent là-dessus. Mais c'est important. C'est important de bien saisir ça, surtout aujourd'hui, hein, où l'influence des exégètes est très grande et où, de fait, elle remplace très souvent la théologie. On ne donne que des cours d'exégèse. On ne donne plus de cours de dogme. On ne donne plus de cours vraiment de théologie. On peut faire de l'exégèse sans philosophie, tandis qu'on ne peut pas faire de théologie dogmatique sans métaphysique, sans sagesse. Et c'est pour ça qu'au fond, c'est rare aujourd'hui. Tandis que l'exégèse, il y en a des quantités. Il y en a de bonnes, il y en a de moins bonnes. Il y en a de très bonnes, heureusement. Parce qu'il y a des très bons exégètes de Saint Jean. Le père Braun, le père Feuillet, le père Spic, ce sont sûrement de très bons exégètes de Saint Jean, avec des modalités différentes, c'est bien évident, mais c'est sûrement des très bons exégètes. C'est pas les seuls, hein. Je nomme les trois parce que je les connais bien et que je les aime beaucoup, alors il y a une priorité dans l'ordre de l'amour, n'est-ce pas ? Mais je crois qu'en effet que ce sont les meilleurs, ce sont ceux qui ont été le plus loin, et c'est le père Feuillet qui a sûrement été le plus loin. Sûrement le père Feuillet qui a une pénétration très très grande dans le mystère de Jean. Je me souviens, après certaines recensions qui avaient été faites sur l'évangile de Saint Jean, certains, plus exactement certaines perspectives exégétiques, j'avais téléphoné au père Feuillet, de passage à Paris, et j'avais demandé au père Feuillet, est-ce que vous n'allez pas répondre ? Alors il m'a dit, non, je ne peux pas, je souffre trop. On n'a pas le droit de toucher au trésor de l'Église. Et le trésor de l'Église, pour nous, c'est l'Évangile de Saint Jean. Et on n'a pas le droit de le morceler. Vous savez, c'est ceux qui voient différentes couches. Il y a un premier Jean, un second Jean, un troisième Jean. Alors on voit des couches successives. On fait de l'exégèse avec des paires de ciseaux. On coupe, n'est-ce pas ? Et on essaie de voir ces couches différentes. Alors à ce moment-là, on ne cherche plus la signification profonde. Parce que l'Évangile ne nous est pas donné pour cela. Il nous est donné pour notre vie divine. Alors, si on essaie de découvrir dans l'Évangile de Saint Jean l'ordre de sagesse, je sais très bien qu'au niveau purement exégétique, c'est très difficile. Je vous ai déjà dit que j'avais eu comme professeur un exégète qui nous avait dit, il est monté au ciel maintenant, donc il comprend, qu'il ne fallait pas regarder dans l'évangile de Saint Jean l'ordre. Parce qu'il n'y avait pas d'ordre. Il n'y avait pas d'ordre dans l'évangile de Saint Jean. Alors, les professeurs, ça sert toujours à deux choses. Ou on est d'accord, ou on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on veut à tout prix montrer que pas... ce qu'il a dit, c'est une grosse bêtise. C'est bon. Quand j'ai écouté ça, que j'ai été étudiant, je me suis dit, il se trompe. Il y a un ordre. Il y a sûrement un ordre. Un ordre de sagesse. Il n'y a pas un ordre cartésien. Oh, ça, c'est bien évident. Le vieux Saint-Jean, il est bien au-dessus de Descartes. Hein. Le cogito du vieux Saint-Jean, vous voyez ça, c'est pas la même chose du tout. Tandis que il n'a pas un ordre cartésien, il n'a pas un ordre logique, c'est bien évident. C'est un ordre d'amour, un ordre de... C'est pas toujours commode de le découvrir, hein, après Descartes. Il faut découvrir cet ordre de sagesse. Et pourquoi faut-il le découvrir? Parce qu'il est dit dans l'Écriture que toutes les œuvres de Dieu impliquent ordre, mesure et poids. Cette fameuse parole que saint Augustin aime tellement, parce que pour lui c'est la clé de la théologie. Il faut découvrir l'ordre, la mesure et le poids dans toutes les œuvres de Dieu. Or, si l'évangile de Jean est le dernier livre révélé, c'est une œuvre de Dieu par excellence. C'est celle qui domine toutes les autres au niveau révélation. C'est vrai, un évangile, c'est plus précieux qu'une maison. Un évangile, c'est plus précieux qu'une cathédrale. Un évangile, et surtout l'évangile de Jean, c'est plus que Sainte-Sophie. À Constantinople, hein, ça dépasse. Et pourtant, Sainte-Sophie, c'est d'une beauté dans sa pauvreté actuelle. C'est l'église la plus maternelle qui soit. Et c'est l'église la plus ordonnée, la plus mesurée, et l'église où il y a un poids d'amour unique. Mais si Sainte-Sophie est quelque chose de si grand, l'évangile de Jean encore bien plus. Donc on doit pouvoir découvrir cet ordre, cette mesure et ce poids. Je suis persuadé qu'on peut le découvrir. Pour cela, il faut lire l'évangile de Jean en essayant de découvrir ce que l'Esprit Saint a voulu nous donner à travers Jean. Et voyez, je remonte à la cause principale. C'est la différence avec l'exégèse. Le théologien ne peut pas s'arrêter à l'instrument. Il serait un mauvais théologien. L'exégète facilement s'arrête à l'instrument. Quel est celui qui a écrit l'évangile de Jean? Comment l'a-t-il écrit? Tout ça, c'est des questions qu'on pose à l'instrument. C'est très très bien. C'est pas mauvais. Puisque l'Esprit Saint s'est servi d'un instrument. Dieu se sert des hommes. Et donc je peux très bien essayer de comprendre la différence de tempérament de Jean et de Luc. La différence de tempérament de Matthieu et de Marc. Et puis regarder les circonstances historiques dans lesquelles ils ont réalisé cette œuvre. Je peux très bien faire ça. C'est très intéressant. Je peux faire ça pour Amos, Osée et tous les prophètes de l'Ancien Testament. À ce moment-là, on s'intéresse avant tout à l'instrument. Tandis que le théologien sait que tous les évangélistes, tous les prophètes sont des instruments du Saint-Esprit. S'ils sont des instruments du Saint-Esprit, vous le dites dans le credo. Hein. Le théologien connaît son credo. Et il sait très bien que c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur principal de toute l'Écriture. C'est pour ça qu'à travers toute l'Écriture, il y a une unité fondamentale et ultime. Parce que c'est l'œuvre d'un auteur principal, qui est l'Esprit Saint, et que cet Esprit Saint a le droit de se servir d'instruments extrêmement divers. Saint Augustin dit ça d'une façon poétique, en disant que toute l'Écriture, c'est une grande œuvre musicale, dans laquelle l'Esprit Saint se sert d'instruments très différents, des flûtes, des contrebasses, et ainsi de suite, des pianos, des violons. Je ne sais pas ce qu'est Saint-Jean. Saint-Augustin ne pousse pas trop loin, tu vois, en disant qu'avec Saint-Jean, on est en face de tel ou tel instrument. Non, non, mais c'est l'Esprit-Saint qui fait l'unité de tout ce grand orchestre, de cette musique extraordinaire qui est la parole de Dieu. Au point de vue théologique, je ne peux pas m'arrêter à l'instrument. Parce que l'instrument, c'est celui qui est tout entier relatif à la cause dont il est instrument, c'est-à-dire à la cause principale. Donc je ne peux pas m'arrêter à l'instrument. Je m'intéresse aux diverses modalités de l'instrument. C'est intéressant, ça me permettra de mieux comprendre certains aspects de la disposition. L'instrument me fait découvrir l'ordre de la disposition. Mais l'instrument ne fait pas découvrir le point de vue de la finalité. Mais ce sont des petites distinctions qui en philosophie et en théologie prennent toute leur signification, mais si on n'a pas fait de philosophie ni de théologie, on ne voit pas du tout. Alors on fait de grosses confusions, parce que on confond la finalité et la disposition. La disposition se prend toujours du côté de la matière. La disposition se prend du côté du conditionnement. La disposition est toujours du côté de l'imparfait, tandis que la finalité, c'est quelque chose de parfait. Donc, au niveau théologique, je ne peux pas m'arrêter à l'instrument. Je dois aller plus loin. Et je dois comprendre comment l'instrument est l'instrument de l'Esprit Saint. Et comment l'Esprit Saint se sert de cet instrument pour nous révéler ce qu'il veut nous révéler. Mais je regarde la cause principale en premier lieu. Je peux le faire avec la foi. C'est mon privilège de croyant. C'est pour ça que je ne peux pas faire de théologie si je ne suis pas croyant. Tandis que l'exégète qui regarde uniquement les instruments peut très bien les regarder en historien. C'est la grande tentation d'aujourd'hui. De séparer l'instrument de la cause principale dont il dépend. Et alors à ce moment-là, on risque de vouloir faire une exégèse pour elle-même, oubliant que l'exégèse est tout entière dépendante de la théologie et au service de la théologie. Elle est pour la théologie, parce que le théologien, lui, dépasse ses instruments pour regarder la cause principale. Et c'est très important de se rappeler ça aujourd'hui, parce qu'autrement, on n'a plus une lecture de l'Écriture comme toute la tradition de l'Église l'a donnée. Vous savez bien qu'il y a eu une certaine rupture dans l'exégèse de la parole de Dieu au moment du Père Lagrange. Ce n'est pas le Père Lagrange qui a fait la rupture. Hein. C'est venu des protestants. Arnaque. Tout le modernisme. Et les catholiques ont voulu répondre. Ils ont fait une exégèse apologétique. Et progressivement, cette exégèse apologétique est devenue une théologie. Je crois que ça, c'est très important historiquement à bien saisir. Au début du siècle, c'est pas vieux, c'est au début du siècle tout ça. Je me souviens avoir lu des conférences qui étaient données à Lille par un grand théologien dominicain de l'époque, et qui parlait justement de tous ces problèmes exégétiques vers 1904, 5, tout à fait au début du siècle. Et il soulignait cela en disant, de fait, les protestants ont obligé les catholiques de donner une réponse. Parce que Arnaque prétendait, et le modernisme prétendait, qu'il n'y avait rien d'historique dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il fallait donc, d'une façon apologétique, montrer que l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament impliquaient des éléments historiques. Mais cela ne veut pas dire que les évangélistes sont premièrement des historiens. Ils sont premièrement des témoins. Ce que l'Apocalypse montre, ils sont des témoins. Ils sont impliqués dans le mystère du Christ, les quatre vivants, qui sont à la fois les évangélistes et Jésus. Si on est témoin, on est lié à celui dont on témoigne. Les évangiles ne sont pas premièrement des écrits historiques. Même Saint Luc, ce sont des témoignages. Ce n'est pas la même chose du tout. Et c'est là où on voit très bien comment l'apologétique, oubliant qu'elle était apologétique, est devenue théologique. C'est très souvent ce qui arrive. Et à ce moment-là, il y a une orientation qui se perd. Il y a quelque chose qui n'est plus directement dans la ligne. Alors, nous essayons de comprendre l'évangile de Saint Jean, voyez, du nouveau, dans la lumière théologique, hein. Je ne fais pas de l'exégèse. Je fais de la théologie de l'évangile de Saint Jean en disant que c'est par là que nous pouvons donner la théologie mystique la plus parfaite qui soit. Parce que Saint Jean nous donne l'ultime lumière sur le mystère de Dieu amour. Donc, en interrogeant l'évangile de Saint Jean de cette manière, nous voyons tout de suite que nous avons, je donne rapidement, nous avons trois grands moments du début de l'évangile de Jean. Le prologue. Jean-Baptiste face aux Lévites et aux prêtres venant de Jérusalem. Alors, en sous-titre, mettez visite canonique. Hein? C'est une visite canonique. Jean-Baptiste a subi une visite canonique. Mettez en dessous du prologue, chartre de la contemplation. Et puis en troisième moment, la vocation des apôtres. Je crois que nous avons là un point de départ qui est extrêmement intéressant. N'oublions pas que les orthodoxes, que les pères grecs considèrent toujours Jean comme le théologien. C'est l'inspiré, c'est l'instrument du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit se sert de lui comme d'un théologien, c'est-à-dire qu'il a un souci d'ordre. Alors, vous avez ces trois moments. Le prologue, c'est tout le chapitre premier dans Saint Jean. Hein? Le prologue, la visite canonique de Jean-Baptiste. On vient interroger Jean-Baptiste. On voit très bien ça. Il manquait un magnétophone pour essayer d'interroger Jean-Baptiste et de garder exactement ce qu'il disait. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? On voit très bien la visite canonique. Pour que nous puissions donner une bonne réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ceux qui sont envoyés veulent monter en grade. C'est-à-dire une visite qu'on leur demande de faire, une corvée. C'est pas très drôle d'aller voir Jean-Baptiste au désert. Hein? Et il faut donner une bonne réponse. Et quand Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas Élie, qu'il n'est pas le prophète, ce n'est pas une réponse, c'est négatif. Pour ses envoyés, ce n'est pas une réponse. Alors, que dis-tu de toi-même? Et quand Jean-Baptiste dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, c'est encore plus terrible. Comment aller dire à Jérusalem, au Sanhédrin, aux grands prêtres, qui s'inquiètent parce que tout le monde va vers Jean-Baptiste? Comment leur dire, j'ai rencontré une voix. La voix de celui qui crie dans le désert. C'est vraiment très curieux. Hein? C'est pour des gens qui veulent faire sérieusement cette visite canonique, ça ne va pas du tout. Alors, on voit très bien, Jean, il est mu, Jean-Baptiste, il est mu par l'Esprit Saint. Il est le pauvre. Un pauvre, on n'arrive jamais à le mettre dans un casier. Il est marginal vis-à-vis de toutes les positions qu'on a prévues. Ces gens qui viennent faire une visite canonique, ils ont des cadres, des tiroirs. Il est le Messie, il est Élie, il est le prophète. Non. Alors, où le situer ? Que dis-tu de toi-même ? La voix de celui qui crie dans le désert. Comment situer ça ? Impossible. Ils ont dû se regarder. Et on voit très bien qu'ils n'ont rien compris. Ils sont au-dessus. Comment baptises ? Que fais-tu ? Au nom de quoi tu baptises ? Ils baptisent parce qu'il est la voix. Ils n'ont pas compris. Parce qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est pour ça qu'ils baptisent. Baptême de pénitence. Eux n'ont pas compris. C'est terrible, hein, mais c'est très important. Parce qu'on voit bien qu'à Jérusalem, on attend le Messie. Que Jean-Baptiste attend le Messie. Il y a deux manières d'attendre le Messie. À la manière de ceux qui sont dans la forteresse religieuse, à Jérusalem, et la manière d'attendre comme le pauvre. Le pauvre, il attend celui qui viendra le libérer, qui viendra le sauver. Tandis que ceux qui sont dans la forteresse de Jérusalem, ils attendent le Messie selon l'opinion théologique qu'ils ont du Messie. Ils ont une opinion théologique du Messie. Et c'est ça qui leur a mis des œillères. Parce que le Messie n'est pas venu dans le prolongement de leur opinion. Il est venu comme l'agneau. Comment voulez-vous qu'il puisse comprendre ? C'est l'agneau. Jean-Baptiste, parce qu'il est pauvre, peut découvrir en Jésus l'agneau. Et nous voyons bien comment Jésus va vers Jean-Baptiste et non pas vers ses lévites et ses prêtres. C'est aussi très beau ça, parce que ça nous fait découvrir ce qu'est Jésus. Jésus est attiré par le pauvre. Il n'est pas attiré vers ses lévites et ses prêtres, ses pharisiens. Il n'est pas attiré par eux. Parce qu'ils sont contents et satisfaits d'eux-mêmes. Dès qu'on est content et satisfait de soi, Jésus ne vient pas vers nous. Tandis que dès qu'on est pauvre, Jésus vient vers nous. C'est la pauvreté qui attire le Messie. C'est la pauvreté qui attire Jésus. Jésus va vers Jean-Baptiste. Au moment où Jean-Baptiste a connu la plus grande pauvreté, Jean-Baptiste est le pauvre parce qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, mais Jean-Baptiste a connu une pauvreté très spéciale en voyant que son témoignage était inefficace auprès de ses lévites et de ses prêtres. Que son témoignage ne convertissait pas leur cœur. Vous savez que c'est la plus grande souffrance pour l'apôtre, ça. De sentir l'inefficacité de son témoignage. Vous verrez plus tard. Et vous l'avez peut-être déjà senti. C'est la plus grande souffrance de l'apôtre. Puisqu'on voudrait que le témoignage qu'on donne soit efficace. C'est-à-dire qu'il porte ses fruits. Or, le témoignage de Jean-Baptiste est inefficace. Devant ses lévites et ses prêtres. Si le témoignage de Jean-Baptiste avait été efficace, tout aurait changé. Les lévites et les prêtres seraient retournés au Sanhédrin, à Jérusalem. Ils auraient dit qu'ils avaient rencontré quelqu'un d'extraordinaire, mu par l'Esprit-Saint. Que c'était vraiment l'envoyé, le précurseur, et qu'il fallait se mettre à son école pour vraiment attendre le Messie. Tout aurait changé. Ces lévites et ces prêtres, je ne sais pas le contenu qu'ils ont dit, mais selon l'évangile de Jean, c'est très net. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris la signification de la petite lampe. C'est Jésus qui dit ça, hein, la petite lampe qui est dans le désert et qui doit attirer. Jean-Baptiste, au désert, découvre. Au-delà de Jésus, qu'il connaît, sûrement, d'une connaissance humaine, le mystère de l'agneau. Alors ça, je crois que c'est capital pour l'évangile de Saint Jean. Jean veut enraciner tout son évangile sur la grande expérience mystique, prophétique de Jean-Baptiste. C'est la première grande lumière, c'est pas la seule, mais c'est la première grande lumière. Et c'est une lumière qui, je crois, est capitale. On ne comprend rien à l'évangile de Jean si on ne voit pas ça. Voici l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, en disant ça, nous fait comprendre le regard divin que l'Esprit-Saint lui donne sur Jésus. Et Jean, la vocation de Jean l'évangéliste, est en dépendance de cette révélation.